Donc Vincent Tebnekan, je fais pas mal de conférences autour du cloud, des retours d'expérience avec Renault, par exemple.
Et Thierry Dano, qui est mon parrain. On présente également en bas tout ce qui est Edge Computing. Ça, c'était en 2017, quelque chose comme ça. Donc, on a pas mal d'expérience. Et avant de parler IoT Edge, je voulais présenter un petit peu l'origine de tout ça. Donc, à l'origine, on parlait de machine to machine. Donc, l'idée, c'est on voulait connecter des machines entre elles. Et l'idée est ancienne, hein, ça date de 1973, pour ceux qui étaient déjà nés. Et il y a déjà eu des patents qui sont des brevets qui ont déjà été déposés à l'époque, basés sur des concepts. Depuis, il y a une grosse accélération. 2014, ça paraît un peu récent, mais c'est 2014, il y a le standard MQTT qui est apparu. Et à quoi ça sert? Ça sert à dérouler de nombreux cas d'usage, le M2M, donc le schéma. On va travailler au niveau du manufacturing, des industriels, de la médecine, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'usages liés au fait de connecter des machines entre elles. Donc, ce n'est pas nouveau. Et on se dit, voilà, c'est ancien, c'est robuste. Ça fait un moment que ça existe. Et donc, je voulais malgré tout faire un petit positionnement. Alors, c'est schématique, hein, ce n'est pas exactement ça dans la réalité. Mais d'un côté, il y a machine to machine, où mes anciens collègues, ils ont passé presque 10 ans, 15 ans de leur vie à faire du C++, à connecter les machines. Et moi, j'arrive en mode IoT, où déjà toute la route est tracée parce qu'il y a des experts qui ont travaillé dessus, il y a des frameworks qui existent. J'appuie sur deux, trois boutons et puis là, ils sont dégoûtés parce qu'ils ont passé 15 ans de leur vie à imaginer tout un tas de choses que ben, des grands comme Amazon, Microsoft, Google ont déjà inventé ou packagé. Donc, c'est la partie IoT. IoT, il y a des points communs avec la partie machine to machine et la partie IoT industrielle. Alors, avant de faire de l'IoT industriel, j'ai fait de l'IoT tout court, parce qu'il y a une marche à franchir qui est considérable. Et on retrouve au milieu un petit peu la partie qui nous intéresse, c'est la partie IoT Edge. C'est un peu le pivot, le point commun entre tout ça. Alors, je précise bien IoT industriel. Le mot industriel fait que, encore une fois, le niveau de connaissance est plus important. Et même au sein de, on appelle ça l'IoT, il y a des sous-catégories. Par exemple, quand j'interviens dans le milieu du semi-conducteur, ce n'est pas exactement la même chose que dans l'industrie qui fabrique, je ne sais pas moi, des robots ou des poêles. C'est des standards qui sont différents, qui sont propres à chaque industrie. Voilà, on peut pas. C'est difficile d'être expert en tout ça. Dire expert en e-IoT, c'est compliqué. Alors, du coup, je vais résumer un petit peu ce que c'est que l'IoT Edge pour les personnes qui ne connaissent pas. J'ai présenté ça au salon du CIDO il y a 5-6 ans, donc c'est juste un rappel. Donc, en gros, si on compare l'IoT Edge au corps humain, si le corps humain, c'est l'usine, par exemple, on va se dire, voilà, j'ai une bougie, je me brûle, et là, d'un seul coup, je retire la main. Donc, on retire la main, c'est sympa, au lieu de se dire, ah, il y a une bougie, il y a une flamme, ça commence à sentir le roussi, il faut peut-être mieux que je retire la main. Donc, en fait, il y a comme plusieurs petites intelligences réparties le long du corps, ça s'appelle des réflexes. Sur la colonne vertébrale, en fait, le corps est rempli de capteurs et il n'y a pas besoin du cerveau pour décider je vais bouger telle et telle chose. Même consciemment. Donc, le cœur, il bat consciemment, il y a le bras, il y a des réflexes qui apparaissent. Donc, c'est un peu la chose que l'on a reproduit avec l'IoT Edge, à savoir, c'est des petites intelligences réparties un peu partout dans les usines ou dans le corps humain, ce qui permet de retirer la main très rapidement. Et après, on prend des décisions un peu plus posées, de se dire, ah ben voilà, l'enseignement, ben peut-être que je vais mettre des gants la prochaine fois, je vais améliorer, je vais mettre des capteurs, je vais mettre une vitre pour pas me brûler. Voilà, on va réfléchir, mais sur le moment, on a besoin d'agir très très vite. Parfois, ces réflexes sont un peu stupides, c'est un peu grégaire. Des fois, on va tomber dans le fossé parce qu'on n'a pas réfléchi, on saute, on se recule, ou alors un gros coup de bol, bien, ça nous sauve. Donc c'est un peu bête comme réflexe, mais ça le mérite d'exister. Donc, c'est un peu la sélection naturelle. Alors, appliquer, donc ça, c'était l'introduction. Appliquer aux usines, on va de façon imagée appliquer ça aux usines, c'est-à-dire que on a trois personnages ici, ça peut être trois continents différents, ou par exemple, des industriels ont des usines réparties sur trois continents, et chaque continent est à peu près indépendant, et chaque usine est à peu près indépendante, donc on va pouvoir réagir, avoir ses réflexes en local, et c'est important d'être indépendant. De ne pas tout avoir centralisé quelque part les décisions, puisque ça serait trop long, même à la vitesse de la lumière. la vitesse de la lumière se propage même 200 millisecondes de proche en proche. 200 millisecondes, c'est 200 millisecondes de trop s'il y a une urgence. Donc, ce qui se passe, c'est que nos réflexes vont agir en local dans les usines. Et c'est là où la thématique de l'intelligence artificielle est ici, puisque en centrale, on va pouvoir entraîner des intelligences artificielles, les centraliser, les créer des bibliothèques et pouvoir déposer ces intelligences artificielles-là au plus proche du corps humain, là où on en a besoin. Et ça peut ne pas être les mêmes. C'est-à-dire, on a une intelligence centrale pour une machine donnée. Et il se trouve que la machine, par exemple, je vais prendre le cas de la poste, il y a des machines que l'on dépose dans les bureaux de poste, on ne va pas les régler de la même façon parce qu'il y a tout un tas de jeux de pression atmosphérique. Si elle est tout en haut de la montagne, ce n'est pas la même chose qu'aux Pays-Bas. Donc, on ne les règle pas de la même façon. Donc, les intelligences artificielles, même si on crée une intelligence globale, eh bien, elle va opérer différemment parce que c'est ce qu'on disait, à partir de l'intelligence locale, elle peut s'adapter. Donc, ça, c'est important. Ce qui est important, donc, encore une fois, je rappelle, je vais faire un cycle de vie. Par exemple, moi, je suis développeur d'une intelligence artificielle à Lyon. Je la développe, je l'envoie dans le cloud quelque part. Et puis, ce cloud, on entraîne cette intelligence artificielle. Une fois entraînée, on va la descendre sur un ou plusieurs continents. Et on se dit, ah ouais, mais mince, je me suis trompé, j'aimerais ajuster mon intelligence artificielle. Donc, auparavant, par exemple, dans le milieu du semi-conducteur, pour faire ce genre de boucle, il faut plusieurs mois. Parce que, on ne travaille pas avec du cloud, on travaille à l'ancienne, on envoie des disques physiques, des ordinateurs, on les envoie dans les salles blanches, on se trouve qu'il n'y a pas de prise. Là, on est dans le milieu d'une entreprise, il y a des prises. Dans les salles blanches, parfois, il n'y a pas de prise, elles sont toutes occupées. Et ben donc, ça va passer une semaine, trois semaines à trouver, fabriquer la bonne prise. C'est très, très long, en fait. Sans cloud, on travaille un peu à l'aveugle. Donc, ces intelligences artificielles, toujours maintenant, il faut parfois plusieurs mois avant que ça touche le plancher de production. Donc, l'avantage de connecter tout ça, c'est que, en tant que développeur d'IA, je déploie tout ça dans le cloud. Le cloud connaît la topologie de mes différentes usines où elles se trouvent dans le monde. Et on va déployer, c'est un autre sujet, mais par exemple, avec des jumeaux numériques, on va savoir faire une requête et on va déposer la bonne intelligence artificielle au bon endroit. Et si on se trompe, ou alors si les indicateurs ne sont pas terribles au niveau des intelligences artificielles, on se dit, je vais ajuster l'intelligence artificielle et on va resuivre la boucle depuis mon PC jusqu'au cloud et on va redescendre sur les bons IoT Edge. Un IoT Edge, on le verra tout à l'heure, en gros, c'est juste un boîtier, si je simplifie. Avant, on appelait ça une gateway, un boîtier, peu importe, un petit ordinateur. Après, le marketing a dit, oui, on va appeler ça IoT Edge. Et ils ont mis plusieurs années à trouver. Des fois, c'était le fog computing, le edge computing. Enfin, c'était très compliqué. Mais peu importe, c'est un petit ordinateur sur place. On va voir que ce n'est pas facile à trouver ces petits ordinateurs-là. Et encore une fois, sans la partie digitalisation, sans cette boucle d'ordinateurs connectés entre elles, ces ordinateurs connectés, c'est très long, c'est des semaines et des semaines. C'est long également, de mon côté en tant que data scientist, j'envoie l'information, et c'est long également à ce que les opérateurs sur place remontent l'information. Auparavant, il y a un problème, et bien même si on a un fichier Excel, on remplit, c'est du numérique. Le fichier Excel, faut l'envoyer au patron, qui lui-même, le responsable de ligne, qui l'envoie à la fin de la journée au grand responsable de l'usine, etc., de proche en proche. Quand on a l'information tout en haut, il peut s'écouler parfois un mois. Un mois, c'est carrément trop. S'il y a des décisions à prendre immédiatement, un mois, c'est le temps de surconsommer du gaz. En ce moment, c'est une denrée rare. Donc, ça ne sert à rien de perdre 10% de gaz parce qu'on a allumé trop de brûleurs pour réchauffer son silo à grains, par exemple. C'est ça le temps de gagner. Alors, un mois, c'est pas choquant, proche en proche. Donc, Schneider Electric, par exemple, les usines de Dijon, c'est même pas un mois, c'est instantané. Donc, de proche en proche, de façon instantanée.
Je sais pas si c'est slide de changement ou pas.
Ah, je vais pas changer.
Non, pardon, d'accord.
Mais je peux changer.
Je croyais que...
Non. Et justement, sur la partie IoT Edge, j'ai fait un focus, par exemple, sur la partie Azure, mais on aurait pu... Le cloud Microsoft Azure, mais on peut faire la même chose sur le cloud... Amazon ou Google, par exemple, rien que sur le cloud Azure, on a 337 devices possibles. on se dit, tiens, je veux faire de l'IoT Edge, ben, je commence par où? C'est super compliqué. Au-delà de ce que je viens de vous décrire là, il faut justement le device physique. Ça peut être un automate programmable, si on est dans l'usine. Comme ce qu'il y a derrière moi, il y a dans la cheminée, là, il y a des automates programmables pour piloter le robot jaune que l'on voit. Et ben, on commence par lequel? Parce que, pourquoi? Parce que tout le monde prétend supporter, être... oui, on supporte le cloud, on supporte Amazon, on supporte Azure, on supporte Google, etc., etc. IBM, Watson, tout le monde met ça dans les plaquettes, évidemment, sinon ils n'auraient rien à vendre. Par contre, le support entre, allez, on va dire que l'IoT, ça va être 100% des fonctionnalités, eh bien, ils vont supporter peut-être 10%, 5%, parce qu'ils vont parler que le ils vont utiliser que le protocole qu'on a vu tout à l'heure, MQTT. Du coup, oui, on supporte. En fait, pour de vrai, ils ne supportent rien du tout. Ils supportent le MQTT. Il se trouve que MQTT est utilisé par Amazon, par Azure, etc. etc. Ok, c'est détourné. Donc, on a un gros problème pour trouver les bons devices, trouver le bon fournisseur. Une fois qu'on en a trouvé, alors je vais présenter un petit peu les quelques critères que l'on aurait à notre disposition pour choisir. Donc, on a les fonctionnalités, c'est ce que je disais. Est-ce qu'on veut juste 5% de support, 10%, 100%? Évidemment, il n'y aura pas de réponse qui pourrait satisfaire tout ça. J'ai cherché pendant très longtemps, je n'ai toujours pas trouvé. Si vous avez une solution, je suis preneur, qui puisse à la fois être pas cher, à la fois avoir 100% des fonctionnalités, être disponible réellement par rapport au discours marketing, avoir un fort partenariat avec le fournisseur cloud, le ou les fournisseurs cloud, qui est une notoriété de la marque, pas une petite société inconnue au bataillon qui vient de monter, on parlait de start-up, qui vient de monter sa start-up, qui se dit, tiens, je vais concurrencer un Dell ou un XY. L'encombrement aussi, parce que des fois, on a du matériel. Là, on a une caméra Logitech. Si on mettait du Edge dedans, eh bien, il faut un boîtier tout petit. Mais si c'est tout petit, bah, ça va chauffer. Si c'est tout petit, il n'y aura pas beaucoup de fonctionnalités. Si on a une machine assez grosse, on peut se faire plaisir, faire quelque chose de gros, mais il ne faut pas de ventilateur non plus parce qu'il y a un milieu parfois hostile où il y a de la poussière, de l'huile. Donc, c'est très compliqué, l'encombrement, le type de hardware, donc le support hardware. En général, les gens vont travailler là-dessus puisque historiquement, c'est le métier historique des fabricants de boîtiers. Donc, ils vont travailler sur le hardware. Donc là, on peut avoir un très bon support. Mais après, tout de suite après, le support de tout ce qui est software, SW, là, c'est souvent à la baisse. Pourquoi? C'est parce que, par exemple, les PLC, donc les automates programmables qui pilotent les robots, bah, eux, il n'y a pas de système d'exploitation. Donc, potentiellement, il n'y a presque pas de fonctionnalité, mis à part faire bouger des bras robots et des tapis roulants. Tout ce qui est intelligence artificielle, il y a des grands que je ne citerai pas, mais leurs automates programmables, on peut mettre de l'intelligence artificielle dessus à condition de tout convertir en JavaScript. Ça, c'est pas génial du tout, parce que si on a du Python et on a des bibliothèques historiques en Python, bah, on est obligé de tout se farcir à reconvertir en JavaScript si on y arrive. Donc, au niveau PLC, c'est compliqué. Au niveau des micro-OS, c'est des systèmes d'exploitation tout petits. Donc, ça va être bien aussi. C'est robuste, c'est tout petit, c'est indestructible. On allume, on démarre la machine, ça fonctionne. Sauf que bah, comme c'est micro, on ne peut pas mettre grand-chose comme fonctionnalité dedans. On va avoir des soucis aussi. Windows, Linux, ça c'est génial, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est open bar. Sauf que, bah, il faut maintenir le Windows ou le Linux. Après, il faut maintenir les bibliothèques. Ça serait bien d'avoir des bibliothèques qui rentrent dans un micro-OS, qui soient micro-bibliothèques, qui soient déployées directement dans le hardware, qui soient pas chères, avec plein de fonctionnalités. Ça n'existe pas, il faut, en fait, les clients, ils s'arrachent les cheveux, et moi aussi. Donc, on est obligé de trouver toujours des compromis. Voilà un petit peu les problématiques. Et tout ça pour, je le rappelle, c'est pour être agile, déployer des intelligences artificielles, avoir des intelligences au plus proche des machines, décider le plus vite possible. Et aussi, on a des fréquences de décision. Quand on va faire vibrer une table, on fait des essais pour casser des pare-chocs de voiture, par exemple, on a besoin de savoir des vibrations, avec des fréquences très élevées. Donc, si on prend un petit edge, avec des IA assez gourmandes, sans GPU, on souffre rien. Voire même, on ne pourra pas travailler là-dessus. Donc, il y a tout un tas de compromis à avoir. C'est long, parfois, ça prend 6 mois juste pour trouver, juste arriver, on fait des benchmarks, on passe au suivant, au suivant. Mais j'ai bon espoir que d'ici là, tout le monde promet ce genre de choses, hein, tout le monde. On lit la plaquette, et mes clients, à chaque fois, ils se font avoir, ils disent « Ah, c'est génial, Vincent, j'ai trouvé un truc, regarde, tu me dis que c'est compliqué, mais non, c'est facile. Bah, je te mets au défi, appelle-les, vas-y, j'appelle le support. Donne-moi le support technique, je veux parler à un vrai bonhomme, pas d'une plaquette marketing. » Et puis après, le support, il me dit « Ah, passez par email en France, après, on passe par l'email qui recentralise en Allemagne, etc. etc. » C'est super compliqué, juste pour avoir personne pour nous dire que bah, non, finalement, on ne supporte pas telle et telle fonctionnalité. Donc voilà, du coup, comment est-ce qu'on fait pour former les gens là-dessus, sur ce métier ? Par exemple, l'industrie 4.0, comme il y a pas mal de personnes dans l'audience spécialisées en la matière, vous avez remarqué qu'il y a, par exemple, 17 technologies, ça dépend comment on compte, hein, mais 17 technologies, et l'IoT Edge, c'est juste le 12e, c'est juste une goutte d'eau parmi ces 17-là. Et cette goutte d'eau, elle est déjà énorme. Ce que je viens de vous expliquer, ça prend déjà beaucoup de temps à maîtriser, à comprendre. Et malgré tout, si on fait un zoom out, ces 17 technologies ne représentent que 30% d'un projet. Et un projet de transformation, c'est 30%. C'est que de la technologie. Et souvent, quand les projets échouent, bah, ça va être la suite. Déjà, ça peut échouer parce qu'on n'a pas choisi le bon boîtier. Mais ça, entre guillemets, c'est plus facile. Le plus dur, c'est tout ce qui est humain. Donc, c'est les 70%. Parce que c'est les formations des gens, trouver les bonnes personnes, changer les processus, comment on dialogue entre nous, comment on formalise les échanges de documents. Ça, c'est très compliqué. Du coup, comment est-ce qu'on va former aussi en France, il y a 260 000 industries de type PME, ETI, enfin les gens qui en ont vraiment besoin. Tout ce qui est Renault, les géants, L'Oréal, etc., ils n'ont pas besoin de formation. Enfin, ils ont un centre de formation à eux, pour eux-mêmes. Par contre, ils ont besoin de vulgariser en interne. Donc, voilà. Mais si on s'adresse aux 260 000 autres industriels en un temps record, parce que c'est un peu la crise en ce moment, il faut agir vite, il faut savoir où chasser l'énergie que l'on peut économiser, ou optimiser, également digitaliser au lieu d'attendre un mois de d'épiler les papiers. Des fois, j'ai des industriels, ils demandent à leurs opérateurs de remplir des bouts de papier. Les opérateurs, ils remplissent, pas de problème. Ils ont des bonnes notes parce qu'à la fin, à la fin du mois, ils ont des primes en fonction de ce qu'ils remplissent et des bonnes notes. Et après, je vais voir le patron qui a demandé ça. Il m'a dit alors, ça donne quoi les sondages et les statistiques ? Il dit j'ai pas eu le temps, j'en sais rien, j'ai pas vu. Depuis des mois, tu leur demandes ça. Et en fait, religieusement, tous les jours, déjà, ils trichent un petit peu pour avoir des bonnes notes. Bon, donc, ils ont ces courbes totalement régulières d'un côté, donc ils font du travail pour rien. Et puis, l'autre, toi, tu leur demandes des trucs, et en plus, tu ne fais pas de travail pour analyser les données. Et même si tu les analysais, elles sont à peu près biaisées, elles sont fausses, en fait. Donc, il y a des gens qui travaillent pour rien, tout simplement. Alors que si on avait digitalisé les choses, au niveau opérateur, c'est plus facile pour eux. Au niveau patron, c'est quand même plus facile aussi pour eux pour analyser les données. Il n'y a pas besoin de passer un temps fou. Mais vu le nombre d'industriels à former, c'est quasi impossible à former. Si on avait 500 centres de formation, ce qui n'est pas le cas en France, il faudrait, on pourrait former 520 industriels. Et là, ça serait juste pour l'IoT Edge. Donc imaginez, pour faire une transformation complète, il faudrait la partie cloud, la partie IoT, les cobots, etc., etc. Donc on ne s'en sort pas, c'est impossible. Donc ça serait bien que tout le monde soit extasié comme ce que fait Jamy avec C'est pas sorcier. Là, c'est un poste tout récent. Il a été passé à Grenoble. Il y a plein de geeks, de mes anciens collègues geeks à Grenoble. Il y a une foule en délire. Ouais, Jamy, c'est trop bien. Alors, il y a les enfants, les parents, il y a toute une génération. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, des cours de maths où là, les profs, ouais, allez, donnez-nous encore plus de maths. C'est impossible à voir. En fait, l'enseignement, il est particulier. Il faudrait qu'on puisse faire un peu ce qu'a fait Jamy. Et qu'est-ce qu'il a fait, en gros? Bah, il a transformé des choses compliquées en choses fun, en choses rigolotes, manipulables. Et surtout, avec son camion, l'idée du camion, évidemment, il ne perd pas physiquement, mais l'idée du camion, c'est de voyager et d'amener la connaissance au plus proche, d'aller chercher les informations et diffuser au plus proche des gens. Donc, c'est vraiment ça la recette du succès. Et, Et c'est vraiment multigénérationnel. Les enfants, même en ce moment, même à l'école, on leur demande de regarder l'émission C'est pas sorcier, etc. Il y a 44 DVD, l'intégralité. Donc, chaque DVD, autant dire qu'il y a des épisodes importants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inverser, de pas forcément de changer l'éducation. Elle est ce qu'elle est, l'éducation, les centres de formation, c'est des piliers, mais rajouter d'autres systèmes de formation qui vulgarisent massivement. Donc, vraiment un peu comme le MOOC. Le MOOC, on va pouvoir massifier le système de formation. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer toutes les universités au monde. C'est un système complémentaire. Et donc, par rapport à ça, si on inverse le système existant, donc j'ai inventé un système qui, voilà, on met l'usine miniaturisée ou ce que l'on a démontré dans un coffre de voiture. On arrive, on ouvre le coffre, il y a un toboggan. On amène ça à l'hôtel, en haut à droite, pour former des gens, donc dans des colocs. On amène ça directement derrière, en pleine montagne du côté d'Annecy, avec la rivière, etc. Donc, on amène ce matériel, ces connaissances, tout ce qui est Edge. Donc, la partie Edge Computing, c'est tout en bas à droite. C'est un gros boîtier noir qui coûte 5000 euros. C'est à peu près 1000 euros le kilo, là, ici. Donc, c'est assez… je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas. Si on voit un petit peu, c'est le point laser, là. Donc, on devine le point laser. Donc, la partie IoT Edge est modélisée ici. Et au lieu de parler du edge computing, de faire tout un tas de choses, bah, on démontre. Donc, comme Jamy, on montre, on touche ce que c'est que l'IoT Edge. Voilà, il est derrière la sécurité. Il y a tout un tas de scénarios qu'on déroule. Comme ça, c'est quand même plus facile, c'est fun. Même pour, on a testé auprès d'une audience entre 6 ans jusqu'à, j'ai pas demandé l'âge, mais je sais pas, 50, 60 ans, je sais pas. Mais globalement, c'est un concentré de technologie. L'idée, c'est vraiment d'avoir un concentré de technologie pour former maintenant tout de suite, au lieu de passer 2 ans à comprendre en tant que prof, 2 ans à comprendre la technologie IoT Edge. Et puis avant, donc comme prérequis, 2 ans, 3 ans à comprendre l'IA. Et puis 2 ans, 3 ans à comprendre le cloud. Et tout ça, mis bout à bout, au bout de 10 ans, j'ai toujours rien enseigné à mes étudiants parce que c'est un tout. Donc un tout pour que je puisse piloter mon usine depuis mon téléphone. Comme je piloterais ma Tesla, je me dis, ah, tiens, il fait un peu froid, je vais la réchauffer tout de suite maintenant. Le fait d'appuyer sur un bouton de proche en proche, il y a tellement de technologies jusqu'à toucher la Tesla et une autre technologie qui ramène sur mon téléphone. Eh ben, c'est pareil dans les usines, c'est même plus compliqué dans une usine que pour la Tesla. Donc, par contre, si on se concentre sur le pourquoi on fait ça, pourquoi je veux télécommander ma Tesla, c'est parce qu'il fait froid ou alors je veux télécommander chez moi parce que mon chat, il est dans le noir, parce que je l'ai mis dans le noir, etc. Et il n'y a personne pour le surveiller, ou je distribue des croquettes. Donc, il faut comprendre le pourquoi, au lieu de se dire « Ah ouais, mais l'IoT Edge, c'est ça, tel protocole. » Donc, en fait, on est trop technique. Et je le vois lorsque je donne des conférences, il y a des gens qui viennent me voir « Alors, Vincent, il y a quoi dans le boîtier noir et tout ?»« Je suis ingénieur, je veux savoir ce qu'il y a dedans. » Enfin, oui, j'ai cru comprendre que tu étais ingénieur par rapport aux questions, moi aussi. Mais c'est bien le problème. Le problème, c'est qu'on s'intéresse au tout petit bout de fil qui dépasse. Mais qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Donc, c'est pareil, on ne fait pas de l'IoT Edge juste pour faire de l'IoT Edge. Et en plus, les tendances changent, le vocabulaire change, évolue. Et surtout, demain, on aura peut-être la meilleure solution que l'IoT Edge tout en résolvant la même problématique. Ma problématique, c'est de remonter l'information directement sur place. Si c'est par télépathie, c'est génial, c'est même direct. Je m'en fiche en fait de l'IoT Edge. Donc, essayer de comprendre l'IoT Edge en profondeur, c'est bien, mais ça sert à rien, en fait. Donc, j'ai mis du temps, hein. Je me suis soigné, je suis technique moi-même, donc il m'a fallu du temps pour comprendre ça, parce que je donnais des formations où, à la fin, les gens, ils sont là, je comprends rien. Bah oui, là, tu vois juste 1 sur 17, il faut voir un peu plus. Et après, non, je me suis remis en cause, je me dis, attends, il faut qu'on fasse autre chose. Et donc, les retours, les retours, que ce soit dans les salons au CIDO, avec la BPI France, donc c'est très souvent en jaune, on a fait 8000 km. 29 villes en France, avec un tour, on dirait un concert de Johnny Hallyday. Il y a les stands gigantesques de concerts le soir. Enfin, c'est un truc phénoménal. Et tout ça pour vulgariser. Également, au niveau des associations, on va travailler avec des associations qui aident à la réinsertion des jeunes, surtout à Lyon. Il y a le siège qui est à Lyon, c'est Sport dans la ville. Sport dans la ville organise, ils ont plusieurs antennes à travers la France, à Grenoble, à Paris, etc. On se rassemble en un jour, et là, je forme. Toute la journée, on forme. Et avec des escape games, donc là, c'est fun. Les jeunes, ils arrivent, et ils arrivent à comprendre, et voire même, ils me challenge, ils me disent, enfin, les exemples de la Tesla, ils me disent, ah, mais ouais, c'est comme la Tesla. Je dis, mais oui, t'as raison. Et en fait, j'apprends pas mal de choses grâce à leur retour, puisque une centaine de jeunes qui arrivent comme ça toutes les 5 minutes, chacun apporte sa petite idée, c'est génial. Et le fait de les faire collaborer en équipe, c'est encore mieux. Donc, c'est un peu mieux qu'à l'école, quand même. Enfin, c'est différent. Donc, le nouveau paysage de la formation, donc nous, on a maintenant, on a moyen de faire parler des choses qui sont invisibles, qui étaient invisibles jusqu'à présent, tout en un. Donc, on avait déjà des Legos, donc ça existe, des valises que l'on transporte, on arrive, on ouvre la valise. On a déjà des gros systèmes de plateformes industrielles, des centres de recherche qui existent. Et on a des cellules industrielles plus restreintes, mais c'est quand même 150 000 euros. Plus, il faut 2-3 jours pour la démonter, la transporter à l'autre bout de la France. Ça coûte cher. Et puis moi, je suis formateur, j'attends que le matériel arrive. Bon, il arrive, il est pas fini d'être assemblé. Moi, je veux juste former, je m'en fiche du matériel. Je veux juste que ça marche. Voilà un petit peu. Et donc, un exemple de démonstration, je ne peux pas faire là puisque je n'ai pas l'usine en question, mais ça va être, par exemple, là, c'est chez un de mes clients. L'usine, eh bien, on va créer dans l'usine des erreurs, des problèmes. Donc, l'usine, par exemple, je vais prendre l'exemple des usines les plus modernes de France. Les usines les plus modernes de France, elles se protègent déjà. Quand il y a un problème, l'usine se défend et remonte l'information dans le cloud, dit « attention, j'ai une alerte, veuillez prendre des décisions ». Mais de l'autre côté, donc moi je suis le responsable de la ligne de fabrication, c'est la nuit, ok, je reçois une alerte, vous voulez prendre des décisions, donc je débug hein, à distance, je peux voir ou j'appelle, et ensuite je prends des décisions. Mes décisions peuvent, si je le souhaite, être activées directement depuis mon téléphone. Je peux prendre comme la Tesla, j'appuie sur 2-3 boutons, l'information redescend dans l'usine, et on peut allumer des gyrophares, des alertes sonores, on peut éteindre des zones entières qui sont allumées pour rien. Parce que des fois, c'est allumé, on se dit, au cas où, je laisse allumer. Ah oui, mais ça consomme du gaz pour rien. Parce que des fois, on se dit, et en tant que responsable de la ligne, je suis sûr et certain, on est dimanche soir, lundi, c'est férié, on peut tout éteindre. Dans certaines usines, on éteint carrément l'interrupteur, on part, on éteint tout violemment. Donc là, il peut éteindre à distance. Et puis, surtout, quand il y a un problème, c'est pas le tout. Les usines les plus modernes, ont malgré tout besoin, c'est pas suffisant les capteurs, il faut qu'il y ait un opérateur qui aille sur place ou qui est sur place, qui soit sur place et qui regarde ce qui se passe. Donc c'est les five whys, c'est-à-dire on a un problème, le premier pourquoi, bah oui, la porte est ouverte. La porte est ouverte, il y a plein de capteurs. Oui, mais pourquoi elle est ouverte? Oui, mais pourquoi elle est ouverte? Il n'y a pas un capteur ou des caméras qui vont me dire, Vincent, la porte est ouverte parce qu'il y a un chat qui est passé, parce que la femme de ménage a mal fermé ou diverses raisons. Donc on a besoin de savoir toutes ces raisons-là. Et donc là, ça s'appelle la partie qualification des arrêts. Et on peut la faire, voire même on doit la faire de façon manuelle. Sinon, on met 500 000 capteurs. À Tesla, par exemple, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis beaucoup trop de capteurs, beaucoup trop de robots. Et au lieu d'augmenter la productivité, bah, ça chutait. Donc, ils en ont retiré. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis. L'humain, il a toujours sa place. Il a quand même un cerveau beaucoup plus intelligent qu'un robot qui est stupide. Donc voilà, c'est des exemples. Et on peut surtout, en bas à droite, gérer son usine également à distance. Donc on peut piloter un expert. Un expert qui se trouve à distance peut piloter une personne sur place. Surtout en période de Covid, on envoyait à l'autre bout de la Terre juste un expert ou une personne. Mais au lieu d'envoyer 10 autres experts avec cette personne-là, cet expert arrive sur place dans l'usine et puis les autres sont à distance. Des fois, ça va être dans le milieu de la pharma, ça va être des vétérinaires, etc., qui pilotent et puis qui disent, qui sortent la checklist. OK, t'as vu ça. Et l'expert qui se trouve sur place, OK, il réalise les manœuvres. Donc, c'est tout ce genre de choses-là que permet de faire l'IoT Edge. Donc, l'intelligence qui se trouve sur place permet de faire ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. On allume un gyrophare. Quand on appuie sur le bouton rouge du téléphone, eh bien, on peut agir physiquement sur l'usine. Et donc là, c'est là où on peut introduire la notion de jumeau numérique, puisque dans notre casque de réalité virtuelle, on peut faire des requêtes en temps réel. Et en gros, ça ne change pas par rapport à avant. Avant, on pouvait les faire aussi, ces requêtes. sur des bases de données relationnelles. La différence, c'est que là, c'est une base de données pour les jumeaux numériques qui est une arborescence, comme il y a les pères, les enfants, les petits-enfants, les neveux, etc. Donc, c'est une arborescence et chaque point de l'arborescence est connecté en temps réel à un point physique. En gros, les jumeaux numériques, c'est un peu ça. Et du coup, on peut programmer une intelligence pour qu'elle, à partir de toutes ces informations-là, qu'elle puisse faire des prédictions. Ce n'est pas facile, hein, c'est le Graal, tout le monde cherche à faire ça. Mais en tout cas, c'est techniquement faisable pour pouvoir faire des prédictions. Et une fois qu'on choisit la bonne prédiction, tiens, cette prédiction-là, elle me paraît pas mal, on l'a choisie, et les coefficients redescendent dans l'usine. Donc là, elle redescend. Il se trouve que j'allume un gyrophare, mais je peux faire tout un tas de choses. Je peux ouvrir et fermer une fenêtre. Je peux augmenter la température d'un bain d'huile. Je peux faire ouvrir trois brûleurs au lieu de deux brûleurs. En fait, on peut changer des choses considérables. On appelle ça des recettes. Donc, par exemple, si on travaille dans le milieu de la fabrication du pain industriel, eh bien, les recettes d'un four en particulier, avec justement des brûleurs, avec tout un tas de paramètres, eh bien, on va pouvoir s'échanger ces recettes-là et centraliser tout ça dans le cloud. Et donc, d'où l'importance de pouvoir être agile, de pouvoir échanger ces recettes, de ramener ces recettes-là du côté du développeur. Il regarde ce qui se passe, on le ramène dans le cloud, on redescend dans là ou dans les bonnes usines sur le bon four. Donc voilà, c'est l'IoT Edge. C'est juste un moyen d'arriver à l'agilité et d'avoir une intelligence en local. Voilà, donc avant, je résume. On passait par tous ces formulaires, on remplissait à la main. Alors certains, j'ai trouvé ça considérable, mais certains de mes industriels me disent « Mes opérateurs passent 50% de leur temps à remplir des bouts de papier. » Je trouvais ça considérable, hein, 50% de son temps. Mais bon, c'est ses stats, hein, je respecte ce qu'il m'a dit, mais en tout cas 50%, même si je trouve ça énorme, c'était quand même beaucoup. Donc, à la limite, avec la digitalisation, si on appuie sur le B, c'est pas juste un bouton... n'importe quel bouton, le B, il y a tout un tas de technologies derrière qui fait qu'on peut retrouver l'heure à peu près, par déduction, on peut savoir qui a appuyé dessus, donc ça va beaucoup plus vite. C'est pas juste un interrupteur normal. Donc il y a plusieurs technologies derrière qui permettent de faire ça. Voilà, là c'est la partie réalité augmentée. Et puis les prédictions en question, par exemple, voilà, on peut regarder le futur, en fait. On peut voir le futur, on se dit, tiens, ce futur-là, il m'intéresse. Et je le prends, littéralement, je choisis le futur en question, et les coefficients redescendent dans l'usine. Et si ça ne nous plaît pas, on peut changer de futur. On se dit, tiens, je vais prendre l'autre futur. Là, c'est n'importe quoi, cette IA, elle raconte n'importe quoi, je vais prendre l'autre. Ou alors, je vais faire moi-même mes ajustements et j'envoie ça à l'intelligence artificielle. Voilà, et là, c'est un exemple en 3D de l'usine. Mais ça, c'est que la partie IoT, c'est que une goutte d'eau encore par rapport à tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on aimerait avoir comme enseignement. L'enseignement, c'est tout ce qui est performance des usines. On produit tant de pièces, j'aimerais suivre les performances de mon usine ou de mes usines en temps réel. Ça paraît bête, on est en 2022. Je travaille avec un des leaders sur un secteur particulier mondial. Il y en a deux dans le monde. Là, je travaille avec le... Alors, ils se battent, hein, des fois, il est numéro 1, là, il est peut-être numéro 2, je ne sais pas. Et ils n'ont pas de suivi de monitoring en temps réel sur le téléphone. Bon, il y a le monitoring dans la machine en question, qui fabrique, avec l'opérateur qui vient, ils font tout un tas de choses avec la machine, mais il n'y a pas de suivi mondial. Ça n'existe pas. Les machines, elles sont capables de faire ça, mais ils ne se sont pas dit, tiens, je vais la connecter. Ou alors, ils se sont dit, oui, peut-être. Ou alors, ils se disent, ben, j'ai la capacité à suivre... l'énergie, la consommation d'énergie de ces machines-là, mais je ne le fais pas. Dommage, il y a un tuyau, là, il y a un câble. Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, c'est assez particulier quand même. Donc là, c'est l'aide, l'accompagnement, le changement. Techniquement, il y a tout ici. Je parlais des fours industriels. Techniquement, le four industriel, il est équipé. Parfois, il y a certains fours, ils ne sont pas équipés, je comprends. Les gens ont la réticence, mais là, ils sont équipés. Donc le four, il tourne à vide, en fait. Il enregistre des données, comme ça, à vide. Et à la fin de la journée, ils effacent tout parce qu'il n'y a plus rien. Ils n'ont pas mis la carte, ils ne récupèrent pas, tout est effacé. Je dis, mais vous avez perdu des années d'expérience là. C'est juste dommage. Alors que d'autres qui ont conscience de ce fait-là, d'amasser les données, eh bien, ils passent 2 ans à rien faire. Ils disent, oh, on va faire un proof of concept. Non, un 5e proof of concept. Non, un 12e. Alors, il y a 25 réunions avec 35 personnes au COMEX qui disent, oui, Ah non, ah oui, mais non, ah oui. Alors là, pendant 2 ans, 3 ans, on en est toujours à faire rien du tout. Alors que, ben voilà, une usine, monter un capteur, remonter la donnée, c'est la partie technologique, c'est les fameux 20 à 30%. Allez, en une demi-journée, on a fait 90% du travail. Après, il faut fignoler. Mais en un mois, on a fini le projet. Techniquement, il est fini. Le reste du temps, c'est des réunions. Donc, si on arrivait à supprimer toutes ces réunions qui servent malheureusement à rien, des fois, elles servent. Hein. Elles servent, c'est la taxe à payer. Moi, j'ai appris ça avec ça à France Services. Il y a une taxe à payer. Une taxe, on arrive, okay, on paye la taxe réunion. Et on arrive, on paye la taxe réunion. Il y a une personne côté sécurité, c'est la taxe sécurité. On est obligé de passer par là. Tout ce qui est cybersécurité, c'est une taxe à payer. C'est une réunion, c'est obligatoire. Donc, c'est pour le bien des choses. Mais il y a des réunions qui servent absolument à rien. Enfin, et il y a des déperditions d'informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous me dites en termes de timekeeper.
On est bon.
Ben, je vais donner un exemple alors, de déperdition d'informations. Donc, groupe français, multinational. Il y a un siège quelque part en France. Ce siège, c'est corporate. Et ce que je dis là, c'est valable pour plusieurs de mes clients internationaux. Hein. Il y a le siège corporate, la tour d'ivoire, on imagine tout un tas de choses. La DSI, l'informatique est découpée en deux. La partie gestion du parc machine, la partie sécurité. Ils ont tous les deux des pouvoirs super importants avec des droits de veto. Ça, c'est d'une part. Et on retrouve souvent un copier-coller de cette structure dans les filiales. Dans les filiales en France ou à l'étranger. Donc chaque filiale dispose de la même chose. D'un service informatique divisé en deux, avec la partie gestion du parc et puis la partie sécurité. Et tout ça, copier-coller sur un nombre de sites importants. Mais quand on veut mettre un projet connecté global en place, même si c'est piloté par Corp, Corp qui dit « oui, on veut faire comme ci et comme ça », Corp va mettre beaucoup plus de temps, puisque réellement, l'utilisateur final, ça va être le site. Alors le site, lui, il connaît son problème, sauf que Corp, lui, il veut globaliser dans le monde entier. Et après, je vous laisse voir et comprendre pourquoi, des fois, il faut 3 ans juste pour faire rien du tout, qui prend une demi-journée. Le pire, c'est que plusieurs fois, j'ai offert gratuitement, parce qu'une demi-journée, c'est rien. Sur un projet, on parle de millions d'euros, là, sur une demi-journée. C'est cadeau, je vous en fais cadeau. Mes équipes, on travaille un jour, 2 jours. Après, on vous livre ça en une demi-journée, on vous l'installe. C'est pas suffisant. Ah ben non, c'est pas ta responsabilité. Ah non, mais c'est la filiale. Dans la filiale, il y a un chef de projet. Le chef de projet, il n'est pas technique. Il avait trouvé la solution, la bonne solution, mais il n'est pas technique. Donc, c'est pas lui. Alors, ça va être l'autre technique, mais sauf que l'autre technique, il ne connaît pas le besoin. Et puis, il n'est pas de la sécurité, etc., etc. Et voilà, 2 ans de projet, 3 ans. C'est très long. Voilà. Donc, ça, c'est la partie... mesure de la performance, il y a l'énergie, il y a tout ce qui est assistance à distance, remote assist, ça s'appelle. La partie IoT Edge que l'on a vue, mais sans Internet. Donc, ça, c'est aussi une grosse demande. À l'époque, sans Internet, on stockait les fichiers en local. Et puis, quand il y avait Internet de nouveau, on essaye de resynchroniser ça. On avait fait pour... maintenant, il y a prescription, probablement. Ça fait plus de 10 ans qu'on a travaillé là-dessus, mais on a recréé ce principe. Avec mes collègues, il a fallu 1 mois pour coder ce genre de choses pour Schneider Electric. Donc, ce principe de IoT Edge et de synchronisation de bases de données, 1 mois avec une équipe de gros geeks à faire juste du code pour que quand il y a Internet à nouveau, on resynchronise avec aucun conflit. Donc là, c'est pratique d'avoir une bibliothèque. Il se dit, voilà, si tu es débranché et que tu te rebranches, tu me résous le problème. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas passer 1 mois à faire ce qu'on a fait, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. On l'a créé nous-mêmes. Mais c'est de prendre des bibliothèques qui existent et de les déposer dans le Edge, sous réserve que le Edge soit capable de recevoir le code en question, le ou les codes. Voilà.